Ladies and gentlemen, if you are participating in the at-large criteria and expectation task force, either you're a member or you choose to sit in on it, please.
Mesdames, messieurs, dames, si vous participez à la réunion de 12h30, équipe spéciale d'at-large sur les critères et les ADLS, veuillez vous asseoir. Si vous ne participez pas, veuillez quitter la salle.
Thank you very much. We're starting only 8 minutes.
Bien, merci beaucoup. Nous avons 8 minutes de retard, ce qui est déjà assez bien. Donc, c'est l'équipe spéciale d'at-large sur les critères et les attentes des ALS. Nous sommes responsables de préparer, donc de rédiger une série d'attentes et de critères concernant les ALS et les RALO aussi, puisqu'ils vont devoir appliquer tout cela. Nous allons essayer de nous assurer que nous avons davantage de participation de la part de notre communauté et de nos ALS. Ceux qui, d'entre vous, étaient là à 8 heures ce matin, ont entendu qu'on parlait de la révision d'at-large. Je ne sais pas si vous étiez là. Une des révisions d'at-large et une des visions d'at-large est qu'on voudrait que les réviseurs fassent un audit des ALS, hein, avec un système d'échantillonnage pour voir dans quelle mesure les ALS participent. Donc, je pense que cela peut être positif de parler de cela avant que tout le monde commence à parler de tout cela. Donc, ce groupe reconnaît que nous avons certains problèmes. Nous ne savons pas comment les résoudre, mais nous cherchons des moyens de les résoudre. Et à mesure que la communauté des ALS augmente, nous voulons qu'il y ait des groupes qui participent correctement. La tâche actuellement, il y a des activités de suivi, mais la tâche actuelle a été divisée entre 4 équipes de conception. La première est l'équipe de conception A sur le processus de candidature. C'est difficile parce qu'une partie de leur travail ne peut pas être complétée tant que les autres n'ont pas fini leur travail. Mais ils ont déjà fait un bon travail. Et donc, Nathalie, qui est à la tête de ce groupe, et ceux qui ne sont pas à la tête de ce processus. En général, c'est rare d'avoir un membre des personnels d'ICANN qui dirige un groupe de ce type. Donc, voilà, c'est le cas. Le deuxième groupe, c'est le groupe des critères. On doit appliquer pour accepter une ALS et je suis le président de ce groupe. Hein, le premier est le DTC, c'est les initiales de cette équipe de conception. A pour donc candidature, C pour critères et les attentes, hein, donc qu'est-ce qu'on attend des ALS, qu'est-ce qu'on attend des RALO, qu'est-ce qu'on attend au niveau de leur participation et qu'est-ce qu'on attend du personnel aussi au niveau des communications, de la participation de ces ALS. Cela est donc dirigé par Yulia et ensuite on a DTA pour les membres individuels et c'est Cheryl qui s'est chargée de ce groupe. Cheryl a demandé à commencer parce qu'elle a un problème et elle est en retard pour une autre réunion. Donc, nous donnons la parole à Cheryl. Cheryl, vous avez la parole. Merci beaucoup, Alan. Nous allons vous faire une mise à jour de nos activités qui ont été moins importantes que ce qu'on voulait à cause de la grande quantité de tâches auxquelles nous participons dans d'autres secteurs de l'ICANN, par exemple des choses liées à la responsabilité ou à la transition. Donc, nous n'avons pas avancé autant que nous voulions, mais je voulais vous présenter un petit peu ce que nous avons fait. Notre travail s'est d'abord focalisé sur le niveau d'uniformité entre les RALO et au niveau des membres individuels. Pour le reste de notre documentation, nous allons parler de IM. Je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas d'une option ici, il s'agit d'une recommandation acceptée, une recommandation du comité de révision d'at-large numéro 1, selon lequel toutes les organisations at-large régionales devraient partager et réunir leurs membres individuels. Aujourd'hui, c'est une petite partie de notre travail qui n'a pas été terminée au niveau de notre première révision. Je pense que c'est très important d'avoir un processus qui nous permettrait de mettre cela en place. au niveau des RALO avant que la révision indépendante soit terminée et ou commence et nous analyse et nous fasse une révision de ce que nous avons fait. Hein, parce que c'est un petit peu un drapeau rouge ou un drapeau rose en tout cas. Mais donc, c'est important. Cela dit, il y a une série d'organisations comme l'ALS, comme les ALS d'Amérique du Nord, ont eu la possibilité d'avoir des membres individuels qui travaillent dans leur RALO. Je vais vous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. On me demande de ralentir. Excusez-moi, je suis un peu pressée. Donc, pour permettre aux membres individuels, cela figure dans les statuts, et dans les règles de procédure pour la région et dans le cas de l'Amérique du Nord. C'est comme ça depuis le tout début que ça fonctionne. D'autres RALO ont mis en place ce système et ce que fait le personnel, que je n'ai pas pu trouver sur le site Internet là où ça devrait être. D'ailleurs, ça existe hein, parce qu'il y a eu une action à suivre lors de notre dernière réunion il y a un mois. Ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait des tableaux sur lesquels on pourrait regarder facilement la comparaison de chaque région, de chaque organisation at large dans chaque région avec les membres individuels. Quels sont les critères en cours? Quel est le statut? Comment est-ce que tout cela fonctionne? En même temps, la région de l'Asie-Pacifique et l'organisation à large de cette région vient d'être rénovée, renouveler ses règles de procédure. Elle fait un travail spécifique qui analyse la façon dont un nombre énorme d'individus pourrait s'occuper, vu les nombres que nous avons dans nos régions, hein, qui sont des nombres élevés. Hein, on a ici un aspect une approche différente. La plupart des RALO ont un système en forme de cluster, hein, de compartiment. Hein, et nous parlons d'une structure beaucoup plus grande qui donnerait la responsabilité et le droit de vote de la même façon que les autres structures at large. Mais comment est-ce que l'on peut justifier, par exemple, le fait que ce modèle soit utilisé dans des endroits où l'on pourrait avoir 25 000 ou 40 000 membres dans nos régions? On ne va pas avoir un seul vote, hein, comme si c'était une structure at large. Donc, APRALO va mettre en place un livre blanc, hein, va élaborer ce livre blanc pour proposer certains modèles dont nous avons commencé à parler, pour voir comment régler cette question. Donc, c'est un travail en cours de réalisation. La révision ne peut pas être statique, clair. C'est un travail en cours de réalisation. Donc, nous devons voir ce que les organisations des autres régions ont fait avec les membres individuels. Le travail d'APRALO est un exemple, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, le travail réalisé par l'ACRALO est très utile. L'autre question en particulier que nous devons analyser, c'est le problème de... là, on décide si l'on peut avoir un sommet, par exemple. On a un mécanisme au sein des structures larges qui nous permet d'envoyer un représentant, de nommer un représentant. Il faut voir comment équilibrer cela. Est-ce que nous avons des équivalences de 1 pour 5, 1 pour 50, 1 pour 500, hein, comment ça fonctionne? Quelle est la parité pour s'assurer que la voix des membres non affiliés, des membres individuels non affiliés, soit aussi entendue au sein de notre région et de notre travail d'ATLA? Et finalement, ce que je signale dans mon rapport aujourd'hui, que je voudrais faire passer comme une action à suivre, si vous êtes d'accord, c'est que je pense que nous avons besoin de demander une discussion entre et au sein des RALO sur ce point-là, quand je ne sais pas. Mais nous devons le faire. Ça doit être fait. Il faut que ce soit une action à suivre. Donc, peut-être à Marrakech, je ne sais pas, mais il faut que cette discussion ait lieu. Je crois que j'ai au moins abordé toutes les questions. Ce système de vote des ALS, pour voir quel est le degré d'harmonisation et de prédictibilité qu'on peut avoir pour les droits, les exigences des votes, pas voter, l'impact que peut avoir le système de membres individuels. Et l'équité et la parité. Et là-dessus, Monsieur le Président, je vous demanderai s'il y a des questions et je vous remercie. Merci, Charaldi, Alan Greenberg. Avant de donner la parole aux participants pour voir, Cheryl a dit qu'elle était en retard. Et au niveau du travail de ce groupe, de son groupe de travail, lorsque j'ai commencé ici à ce poste, quand c'était ma priorité hein, à l'époque, et mon objectif était que l'on soit à Dublin, on ait des propositions à faire approuver par ALAC. Hein, et clairement, nous n'en sommes pas là, nous sommes très en retard, nous n'avons pas vraiment fourni suffisamment d'énergie dans ce domaine et je dois reconnaître que je suis responsable. Est-ce qu'il y a des questions destinées à Cheryl? Sur ce que Cheryl vient de nous dire, est-ce qu'il y a des questions? Vous savez que l'Agralo n'a pas trouvé, Vanda prend la parole, n'a pas trouvé la manière de trouver des systèmes pour les individus, hein, pour le vote. Nous ne sommes pas encore rentrés dans cette lutte au sein de l'Agralo parce qu'il y a beaucoup d'opinions différentes. C'est compliqué, mais de toute façon, je dirais que c'est quelque chose que la discussion à l'époque était commencée par des gens qui ont déjà démontré leur engagement au niveau du groupe. Donc, moi qui ai déjà participé à des webinaires, des réunions, des téléconférences, par exemple, avoir des critères qui permettraient d'être reconnus comme des critères de participation, de gens qui participent avant de passer à autre chose. Hein. Ce n'est pas que ces gens ne participent pas, ce n'est pas qu'il n'y ait pas des preuves de participation au quotidien. La plupart d'entre nous sont des gens qui appartiennent à une ALS, participent en général, mais nous, on avait pensé que le principal critère pourrait être ça, essayer de pré-participer avant de s'inscrire ou de se présenter comme membre individuel. Cheryl prend la réponse. Deux choses. Vous avez mis le doigt sur un point important. Et cette approche, hein, c'est ça qu'il nous faut voir. Voir quelles sont les données, les bénéfices. Et par rapport aux caractéristiques que l'on a à DTA, hein, parce que si vous voulez vous présenter pour les structures à large, très souvent, ça va fonctionner comme ça aussi pour les individus. Merci beaucoup. Alan Greenberg prend la parole. Merci beaucoup. Nous avons encore Wolf qui demande la parole. Avant, je voudrais vous dire que les membres individuels jusqu'à maintenant, c'est un problème que nous avions délégué au RALO et il y a beaucoup de gens qui pensent que nous devons avoir des règles générales hein, qui s'appliquent à tout le monde, qui peuvent différer des règles utilisées par certains RALO, hein, mais on aurait un modèle général et la possibilité est de le mettre en œuvre. Cheryl s'inquiète parce que 25 ou 30 000 membres dans des ALS virtuelles existent. On a des ALS qui ont ce nombre de membres, hein, donc on a ce type de chiffres. Hein. D'autre part, Neuralo a eu des membres individuels depuis le début. Je ne pense pas qu'il dépasse les 10, c'est pas très important. Donc, ça peut être un problème de publicité, mais le problème varie en fonction des RALO. Donc, on a besoin de choses, de points communs ou pas. C'est ce qu'on a essayé d'analyser. Wolf, vous avez la parole. Bien, Wolf Ludwig prend la parole. Si l'on compare à Neuralo, Euralo n'avait pas d'individus de membres individuels au début. Hein. Et il y a quelques années, nous avons constaté que c'est un potentiel en Europe, qu'il existe un potentiel en Europe de personnes qui sont profondément engagées. Hein. La plupart d'entre vous connaissent par exemple Roberto Gaetano, c'est un bon exemple. Hein. Une personne qui est là parmi nous depuis longtemps, qui est au conseil de l'ICANN depuis longtemps. Et c'était difficile de le faire payer, de l'inclure d'une certaine façon. Et je comprends très bien que les gens disent « je ne veux pas appartenir à une ALS qui existe déjà hein. ». Donc, je préfère un individu comme un membre individuel. Et en 2010, nous avons décidé de créer nos propres statuts et ça a été accepté par la vaste majorité de nos membres. Nous avons besoin des deux tiers d'approbation de nos membres pour approuver cela, confirmer cela. Et nous avons créé une option par laquelle les individus peuvent créer leur propre ALS. Euralo, les membres, association d'individus d'Euralo, hein, ça, ça, hein. Donc nous avons un système de statut et si les gens demandent une certification, sans problème, ils peuvent être certifiés et cela a commencé à fonctionner comme ça en 2013. Et depuis cette époque-là, Roberto, Veronica, Leto et d'autres personnes qui ont participé ont appliqué ce système. Donc, c'était la meilleure occasion pour nous. Ça a été une des meilleures décisions que nous avons prises au cours de ces dernières années. Et au niveau de l'ICANN, en tout cas, à mon avis, ce sont les personnes qui participent le plus à ICANN. Hein. Donc, on a de nouveau une brèche hein, par rapport à d'autres ALS parce qu'ils sont actifs sur le terrain. Je connais la plupart d'entre eux et ils sont actifs sur le terrain, dans leur pays, au quotidien. Et le lien qui existe hein, entre le niveau national par rapport à Euralo. Et si on continue à monter hein, dans la hiérarchie de l'ICANN, hein, nous essayons de voir comment donc, réduire cette brèche entre ce que eux font activement au niveau national sur le terrain et pour qu'ils soient davantage inclus dans Euralo et participent davantage à ICANN et montent comme ça dans la hiérarchie et puissent participer davantage au développement de politique de l'ICANN. Merci beaucoup. Je ne suis pas un membre affilié personnellement, dit Alan Greenberg. Olivier non plus. Non, je ne pense pas. Dit Ludwig. Il est devenu membre de ISOC France dernièrement, Olivier. Il est membre de ISOC UK, mais il n'appartient pas. Mais ce n'est pas une ALS certifiée, hélas. Donc, Olivier est un de nos meilleurs exemples de ALS qui sont des individus. Bien, bien dit Alan Grimberg. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous sommes un peu en retard. Si vous voulez qu'on finisse là, un autre groupe qui commence à 12h30. Donc, Nathalie, Fatima et Tidjani. Et ensuite, donc, nous devons finir à 13h30. Donc, je finirai la queue. Merci, Alan. Fatima prend la parole. Je vais parler en espagnol. Je comprends que la question de la composition des ALS et ou de membres individuels ne soit pas encore décidée et qu'il faut voir si c'est quelque chose qui est imposé au niveau de l'ALAC ou si c'est une décision de chaque RALO. Je pense que c'est un bon exemple ce que RALO nous dit, ce que Wolf nous dit à propos de la maturité de chaque RALO qui n'est pas la même pour tous les RALO. À la CRALO, par exemple, actuellement, nous traversons une crise institutionnelle qui, est, pour nous, est fait qu'il serait difficile de régler ce problème actuellement. La possibilité d'assumer des utilisateurs individuels comme membres. Hein. Donc, je pense que c'est important qu'on continue à en parler au niveau de chaque RALO avant de décider s'il s'agit d'un critère universel au niveau d'ALAC ou s'il s'agit d'une décision prise par chaque RALO. C'est mon opinion, en tout cas, en fonction de ce qui se passe au sein de notre région d'Amérique latine. Merci. Merci. Alan Greenbeck reprend la parole. On peut vous faciliter les choses en vous donnant toutes les règles, si vous voulez. Le problème, c'est ce que Cheryl disait. C'était une recommandation qui a été faite lors de la dernière révision d'At-Large. On commence la deuxième révision d'At-Large. On n'a pas vraiment mis en œuvre les recommandations. Hein. On essaye de rattraper le temps perdu et on va devoir décider dans quelle mesure nous avons des règles que nous voulons appliquer. Il va y avoir des règles que nous devrons avoir pour les membres individuels. Il va falloir accepter les membres individuels. Maintenant, il va falloir comment décider le détail dans ce sens. Tidjani, vous avez la parole. Tidjani prend la parole. Je suis le président du comité sur la révision d'Afralo, sur les règles d'Afralo. Et ce problème de membres individuels et non affiliés est un des problèmes qui nous a maintenus très occupés parce qu'il y a vraiment des pressions de la communauté d'Afralo, des ALS d'Afralo sur ce problème. Et j'ai passé pas mal de temps à essayer de convaincre nos membres et ils ont leurs propres raisons que je comprends, mais ils ne sont pas prêts à accepter cela. Donc, à la fin, je suis parvenue à avoir une résolution selon laquelle nous acceptons. La mise en œuvre sera d'accepter les membres individuels qui n'ont pas de droit, qui sont là seulement pour participer, qui ne peuvent pas prendre de décision ou participer à la prise de décision. J'espère que nous allons parvenir à la fin à ce que tout le monde accepte et qu'ils aient un droit dans la prise de décision, une participation dans la prise des décisions. Mais les membres non affiliés ont beaucoup de mérite, ils le montrent. Et je le dis, j'insiste là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de risques dans le domaine de ce type de membres individuels. Nous avons une certaine expérience. Nous savons plus ou moins quels sont les problèmes et quels pourraient être les problèmes. Donc, il faut faire attention, ne pas imposer au RALO quoi que ce soit. Je ne suis pas d'accord pour que l'on passe les règles pour tout, pour l'ensemble des RALO, et de façon à ce qu'ils acceptent les membres individuels ou les membres non affiliés. Je pense que chaque RALO doit le faire comme il peut, comme il veut. Merci.
Thank you.
Alan prend la parole. Merci. Je note qu'en fait, on a déjà accepté que chaque RALO aurait des membres individuels. Mais en fait, la question est si on a des règles qui soient inter-RALO, qui s'appliquent à toutes les RALO, et ce que les RALO décideront individuellement. Je suis de toute façon content que Cheryl n'appartienne pas à ce groupe parce que ça prendrait du temps de discuter. C'est la fin des questions. Je voudrais que l'on reprenne l'ordre original et que l'on revienne à la DTA. Merci Alan Sennathy-Perdue du staff, du personnel de l'ICAN. On a eu différents appels sur la liste de diffusion pour l'équipe de conception A, dont le but était de réviser le formulaire de candidature pour établir quand est-ce que les candidats devaient envoyer leur formulaire, si les membres de la LAC votaient ou pas au sujet de l'accréditation des candidatures. C'était un projet assez large parce que le personnel assume l'évaluation d'une partie de la candidature, mais plus intéressant d'avoir le membre ALAC qui partage son avis à la fin. On essaie de voir ici tous les points de vue, toutes les perspectives. On s'est divisé en quatre parties. La première partie s'occupe de la partie urgente. C'est la manière dont le personnel collecte les informations et c'est une manière qui diffère d'une ALS à l'autre. Et ça ne montrait pas nécessairement les différences entre activités. Et donc, c'était différent pour chaque ALS. On avait des différences de participation pour chaque ALS. Pensez que le personnel ferait donc un effort dans la collecte des informations. Il demanderait davantage de retours des vice-présidents régionaux. Et ça allait au-delà des échanges standards avec les candidats habituels et des fois les adresses de courrier électronique étaient de l'organisation et ça contactait pas les autres, en fait. On travaille un peu plus pour assurer que la candidature soit aussi claire et ouverte que possible. Dans ce cas-là, on a également décidé, quoi pour moi c'est difficile, on a décidé que pour certains candidats, il devait y avoir des retours clairs. Donc, pour les candidatures, on pouvait décider directement. Ils nous donnaient des retours sur lesquels on pouvait compter. Puis, on avait une autre organisation que personne ne connaissait pas vraiment. Des organisations que personne ne connaissait vraiment, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas motivés, mais il fallait tout considérer. Donc, j'espère que les mesures supplémentaires du personnel vont nous permettre d'améliorer cela. On avait des inégalités à certains moments des contributions de la communauté. Si vous voyez le formulaire de candidature et les procédures en général, c'est une question de décision du personnel et les contributions de la communauté sont importantes. Alors, ça implique des changements ou en tout cas un examen de ce qui se passe au sein de chaque RALO pour que les RALO puissent vraiment se faire passer des informations entre elles. On a divisé cette partie-là en différentes sous-parties. Donc, on avait la façon dont les RALO communiquaient entre elles pour les conseils régionaux. Certaines RALO vont limiter leurs informations aux listes de diffusion pour discuter entre eux. Et dans ces pratiques, on a des différences. Il y a des RALO qui joignent ce formulaire de diligence à leur mail. Et ça nous fait une approche différente au sujet de la discussion. Une fois que les membres des RALO auront reçu les informations, il y aura des différences et tout le monde va pouvoir commenter leurs expressions sur le wiki. Par la suite, on avait également d'autres contributions de la communauté où les membres de la LAC votaient. C'est pour le vote de la LAC. Les membres recevaient un paquet de votes, comme on l'appelle. C'est le formulaire de vote sur les candidatures et toutes les informations nécessaires de la société interne. On reçut tout ça au début du vote. Correct, si on a le temps de le voir rapidement et s'il n'y a pas de problème spécifique avec la candidature. S'il n'y a pas de problème ou s'il y a beaucoup de documents, ça ne vous donne pas nécessairement suffisamment de temps pour évaluer le vote, pour pouvoir voter. Puis, on a décidé que nous allions prolonger le temps de candidature à une semaine pour que les membres d'ALAC reçoivent toutes les informations nécessaires une semaine avant le vote. Et donc, ça nous permettrait de nous mettre d'accord sur un délai de vote dans lequel les membres devraient évaluer leur avis. Le problème suivant qu'on a trouvé concerne la période de temps du formulaire de candidature. C'est une question qu'on n'a pas résolue pour l'instant. C'est la question de la période dans le formulaire de candidature, dans la procédure de candidature, pardon. En ce moment, on ne parle pas de raisons pour lesquelles il faudrait mettre en pause la candidature. On a eu beaucoup de candidatures récemment qui demandaient peut-être quelques jours de remise ou alors une période de 9 mois, pourquoi pas, pour remettre la décision. Ça dépend du cas. C'était étudié au cas par cas, et c'était compliqué parce qu'il fallait donc décider de chaque période. Pourquoi devrait-on décider d'accepter une période ou l'autre? C'est à cause du personnel. Le personnel a une semaine pour fournir sa diligence due. Et ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une erreur de frappe dans l'adresse de courrier électronique ou il faut des informations qu'il faut trouver ailleurs? Les semaines pour la diligence due ne sont pas suffisantes. De part, il peut y avoir des problèmes avec la diligence. Il y a des dirigeants qui sont satisfaits des informations reçues. Ils ne vont pas vouloir avoir une période plus longue. Alors, s'il y en a quelqu'un qui ne sont pas satisfaits et d'autres qui le sont, est-ce qu'on devrait avoir cette période de remise? Est-ce que la qualité des informations n'est pas suffisamment bonne? Est-ce que cela constitue une raison suffisamment bonne pour remettre la date? On espère pouvoir faciliter cela, mais il nous faut en tout cas une procédure claire, ce que nous n'avons pas en ce moment. Le formulaire de candidature, plutôt que d'être une procédure administrative, pourrait être une opportunité d'engagement, d'échange. Vous aurez sans doute vu qu'il y a des ALS qui sont accrédités et puis disparaissent. Le personnel travaille sur une procédure de bienvenue. On commence à travailler dessus, mais il reste beaucoup de travail à faire. Et il nous semble qu'il faudrait que l'on commence à communiquer avec eux, pas une fois qu'ils deviennent accrédités, mais dès la procédure de candidature, dès la présentation de la candidature. On sent qu'ils doivent commencer à travailler sur leur intégration aux activités d'ALAC, même avant d'être accrédités. Donc, ils devraient être invités aux réunions mensuelles, même avant d'être accrédités. Et on devrait leur donner une présentation brève, qui soit informelle peut-être. On peut leur dire, bon, nous sommes les dirigeants d'ALAC, et on va vous donner ces informations de base pour vous orienter. Vous commencez avec cette période de candidature de 3 mois et il faudrait les préparer donc pour des activités plus productives dans ce délai. C'était la suggestion qu'on avait reçue. Voilà le résumé pas très bref de notre travail. Est-ce que vous avez des questions? Alan prend la parole. Merci Nathalie. Nathalie envoyait un message très subtil lorsqu'elle disait « La période de la LAC sera une semaine plus longue ». C'est pareil que de dire qu'on s'attend à ce que les membres de la LAC le considèrent. Ça ne devrait pas être simplement quelques parties de la vie régionale qui est tamponnée et que tout le monde oubliera. C'est plutôt quelque chose que vous avez à considérer. Mais ce n'est pas la responsabilité personnelle d'évaluer les périodes et les candidatures à titre personnel. Je le dis parce que certains membres de la LAC sentent que ce n'est pas à eux de le faire. Alors, je ne signale pas des personnes spécifiques, mais est-ce qu'il y a d'autres questions pour Nathalie? Ou y a-t-il des questions, pas d'autres? Oui, déjà, allez-y. Encore, je note une fois de plus qu'il nous reste 8 minutes et nous avons 2 équipes qui n'ont toujours pas parlé. Tijani? Merci Alan, merci Nathalie, vous avez fait un très bon travail, dit Tijani. Je suis toujours contente de votre travail parce que vous faites toujours du bon travail. Vous êtes très professionnel et je vous en remercie. Pour revenir à la LAC, droit de la LAC, même de considérer les candidatures, bien sûr, c'est ça, mais la vie régionale est obligatoire ou peut-être nécessaire comme élément de l'évaluation. Donc il faut que nous fassions aux dirigeants nous faire parvenir leur évaluation au bon moment. Et la LAC peut bien sûr avoir une opinion qui diffère de l'avis des dirigeants régionaux. En tant que membre de la LAC, on ne peut pas évaluer ces candidatures si on n'a pas l'avis régional, mais on n'est pas forcé de suivre l'avis. Merci. Oui, c'est correct, dit Alan. Merci. Glenn? Glenn McKnight prend la parole. Merci. Salut. Je n'ai pas vu le document complet, mais très important. Et sur quoi le secrétariat doit travailler, c'est pour donner un avis solide. Et on voit, lorsqu'on reconsidère une quantité d'ALS qui sont disparues, on voit un manque d'informations correctes sur la personne secondaire, parce que la personne primaire est disparue. Il faut vraiment que l'on souligne cela, que ce soit clair pour les candidats, que ce n'est pas simplement une personne qui met son nom sur la candidature qui nous intéresse. On remet cela jusqu'à ce qu'on passera à la prochaine équipe de conseil d'Alan. D'autres questions pour Nathalie? Merci. Oui, allez-y, Tijani. Merci. Très bonne idée de demander aux candidats de participer informellement aux activités des RALO. Mais il y a un seul problème, et c'est que la RALO va devoir décider sur cette candidature. Et dans ce cas-là, les membres ne devraient pas être présents. Je ne sais pas comment on pourrait le faire s'ils participent à la réunion. Alan prend la parole. Non, je pense que Nathalie parlait des téléconférences, qui seraient invités aux téléconférences. Donc peut-être qu'on pourrait avoir une liste de diffusion qui les inclut sans qu'ils soient membres complets. Non, disait Nathalie, en fait, c'est qu'il y a des RALO qui utilisent les réunions mensuelles de leur RALO pour discuter des candidatures. Mais en termes du calendrier, on pourrait considérer que la participation est aux réunions mensuelles des RALO parce qu'ils ont été invités pendant la diligence due, mais pour la période de décision, on ne va plus les inviter. Non? Ça vous convient? C'est difficile de s'empêcher d'avoir des personnes qui appellent en tant qu'invitées à des réunions s'ils savent quels sont les codes. Hein. Fatima, il faut vraiment qu'on passe au groupe suivant, mais vous avez peu de temps. Oui, merci Alan, dit Fatima, je vais parler en espagnol, oui. Par rapport à ce que dit Tijani, dans notre RALO, beaucoup de fois, ceux qui demandent de devenir des ALS participaient déjà aux listes de discussion parce que peut-être ils étaient des boursiers, ils ont commencé à participer ou que ces personnes étaient déjà invitées et participaient aux listes de discussion. Et on se doutait, on ne savait pas si les invitaient comme ALS. Mais en termes de transparence, ça ne devrait pas être un problème d'avoir ces personnes en tant que membres sur la liste parce que la discussion est ouverte et les différents avis de la région vont être exprimés pour pouvoir évaluer la candidature. Donc, s'il nous faut éclaircir des points, il me semble que c'est là qu'il faudrait définir dans la procédure pour leur demander des précisions alors qu'on a déjà les personnes participe sur la liste. Merci Fatima, dit Alan. Je signale que les règles actuelles demandaient de la confidentialité dans le processus et l'acceptation. Et il y avait certaines RALOs, ou même toutes les RALOs, qui ne respectaient pas ça. Alors, les règles que l'on a doivent être appliquées, elles doivent être utilisées. Parce qu'il y a des RALOs qui ont choisi de faire de ce processus un processus public où officiellement on ne suit pas les règles si tout est fait dans le public, vous voyez. Mais presque toutes les règles créées en 2007 et ne sont plus suivies ici, dans les détails en tout cas. Ils ont tendance à être suivis, mais pas dans les détails. C'est pourquoi on regarde le processus complet pour nous assurer que ce qu'on dit aux ALS est ce qu'on va faire, effectivement, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous remercie et je vais maintenant passer à l'équipe de conception suivante. C'est la mienne, ce n'est pas une discussion très longue. Je demande au personnel d'afficher mon, s'il vous plaît. Et je vous rappelle qu'on a une équipe de plus. On ne veut pas avoir à leur dire qu'on n'a pas le temps de les écouter. Non, les personnes n'aiment pas qu'on les ignore. Hein. Vous savez, il faut écouter tout le monde. C'est une question. C'était une vanne, pardon. Et on aura le document sur l'écran d'ici peu, sans doute. On le lise plus rapidement. Le personnel demande au président de se calmer. Et ils ont raison. Alors, on commence à lire et j'espère qu'on pourra aller voir à mesure que je lis. C'est Alan au micro. On n'a que 6 points, d'une part. Ah, bah, vous l'avez. Vous pourrez le voir un peu plus grand. Vous pourrez agrandir. Ah non, ça, c'est pas le moins. Moi, je n'ai que 6 puces. Et le titre est bleu sur mon fichier. Alors, je vais commencer à lire. Je lirai doucement pour que vous puissiez me suivre. Je vais envoyer un lien sur le chat de Skype. On pourrait écrire ces puces sur un tableau, sinon. Okay, d'une part, on dit qu'on ne prévoit pas apporter des modifications aux règles actuelles qui demandent des ALS plutôt dirigés par des individus qui soient autofinancés. C'est ça le critère à l'heure actuelle, qu'elles soient dirigées par des individus, mais ça n'empêche pas la participation de gouvernements ou de sociétés, parce que dans certains pays, c'est la réalité, en fait, c'est eux qui participent, mais qu'ils soient dirigés, en tout cas, par des individus et qu'ils ne puissent pas être financés par l'ICANN. Ça ne va pas dire que des fois, on ne contribue pas, mais ça ne devrait pas être nécessaire. On recommande qu'au lieu d'un contact, il y ait 3 contacts. C'est la pratique au sein d'Aperalo et c'était un grand succès pour assurer qu'on a accès à quelqu'un, à une personne qui réponde à un mail. C'est ça qu'il faut vérifier. Et ça a été utile. Contacts ne peuvent pas être les dirigeants d'organisation, mais plutôt l'organisation doit certifier que les dirigeants d'organisation connaissent la participation et la soutenir. Dans certains cas, la personne de contact n'est plus là. Et donc, on a fait quelque chose qui nous semblait raisonnable. On est accédé au site web des organisations. On leur a demandé qui était le président et on leur a demandé qui allait devenir le représentant de l'ALS. Ils ont dit ALS, ICANN. Alors, quelqu'un avait présenté cette candidature au nom de l'organisation sans que l'organisation le sache. Alors, on sait tous si les dirigeants le savait ou pas dans ce cas-là, mais on ne sait jamais si les personnes sont au courant ou pas. Bien, d'accord. Une minute de plus. Point suivant. Le contact doit avoir la capacité de communiquer avec les membres de l'organisation. Cela est lié aux attentes de l'opération. Et une des tâches des personnes de contact est de redistribuer les informations entre les membres. Dans notre mise en œuvre actuelle, du point de vue des RALO, de certaines RALO, l'ALS est la personne de contact. Alors, ça fait à peu près un an, mais on a fait un sondage sur les capacités qu'on avait au sein de l'ALS. Et en fait, on s'est demandé quelles étaient les capacités des représentants des ALS. Et l'ALS, ce n'est pas que les représentants. Alors, on assume qu'il y a une manière de communiquer avec les membres, d'obtenir des retours si ils voulaient nous donner des retours. Ça pourrait tout simplement être une adresse de courrier pour qu'on leur envoie des informations, mais il y a des personnes qui pourraient choisir d'avoir un filtre, de ne pas tout recevoir. La langue, des fois, est un filtre parce que nos messages peuvent ne pas être utiles à leurs membres en anglais. Le cinquième point est la taille minimale de la RALO. On ne spécifie pas de taille minimale. Plutôt, on s'attend à ce qu'il y ait davantage de personnes que uniquement les contacts et qu'il y ait plus que seulement les personnes qui sont énumérées comme les dirigeants de la RALO. Ce sera la décision de la RALO et puis de la LAC en fonction de la description fournie si ce qu'on a dans la candidature est une vraie ALS ou si c'est uniquement une personne qui veut s'inscrire comme ALS pour se faire financer des voyages. Finalement, ils doivent expliquer l'intersection entre leurs intérêts, les intérêts de l'organisation et l'ICANN. Dans le passé, on a très souvent eu des organisations qui étaient très intéressées à Internet sans pour autant être intéressées à l'ICANN. Et c'était une très bonne manière d'avoir plus à l'aise, mais pas une bonne manière d'avoir davantage de participation. C'est ça les critères qu'on a à ce jour. Ce n'est pas un travail qui ait été achevé, mais pour nous, ce n'était pas la peine d'avoir 400 critères différents parce qu'on allait devoir poser des questions dans la candidature, on allait devoir les évaluer. Et donc, on a essayé de réduire la liste à ce qu'importe vraiment. Et c'est les personnes qui veulent participer à ce processus. C'est tout. Alors, je pense aussi bien mon fichier qu'on voit sur l'écran. Je n'arrive pas à le lire, mais peut-être que vous, vous voyez. Bien, oui, merci. Peut-être qu'on pourrait... Vous avez donc le lien pour accéder à ce document sur le chat. C'est un document qui circule depuis quelques mois, depuis qu'on a commencé à travailler, parce que la discussion n'a pas changé. Je vous donne la parole. Oui, Glenn, allez-y. Glenn McKnight prend la parole. Je restais. Le deuxième point des trois personnes de contact sont non seulement trois contacts, trois personnes et numéro de téléphone, mais ça doit être trois vraies personnes qui doivent pouvoir remplacer la personne principale si elle n'est plus disponible. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. Oui, c'est exactement ce qu'on prévoit de faire, dit Alan. Ah, d'accord. Donc, mais ce n'est pas compris ici, hein, dit Glenn. En fait, vous dites trois personnes. On a vu beaucoup de candidatures pour ISA autour du monde où on a 20 noms, mais en fait, ce n'est qu'un guide téléphonique. Je n'ai pas dit 20 personnes, dit Alan. C'est trois personnes que l'on puisse rejoindre. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on les contacte de temps à autre. Puisque j'envoie ma propre candidature en ce moment, je suis d'accord avec ces règles. Moi, je les respecte d'ailleurs. Mais est-ce que nous vérifions les ALS de temps à autre pour voir si tout le monde respecte ces critères tout le temps? Non, dit Alan. Est-ce qu'on devrait le faire? Dites-moi. Nous allons perdre beaucoup d'ALS si on le fait, dit l'intervenant. Alan prend la parole. Il nous reste 3 minutes, mais une des exigences absolues, au moins à mon avis, pour les candidatures en cours, et c'est pour les membres permanents aussi, des rapports semi-annuels. 2 fois par an, ils doivent nous envoyer des rapports. Parce qu'on doit avoir des informations pour être sûr qu'ils existent toujours. On voit qu'il y a des personnes là. Pardon. Oui, on avait une question depuis Tijani. Mais sachez qu'il reste peu de temps. Oui, dit Tijani, je tiens simplement à dire que l'évaluation du volume de l'ALS ne va pas être facile. Ça ne va pas être simple. Je suis d'accord, c'est vrai qu'on ne devrait pas avoir uniquement 3-4 membres. Mais comment est-ce qu'on fixe la limite? C'est quoi la limite? Comment on l'évalue? Ils peuvent avoir 3000 membres, selon eux, mais comment on le vérifie? Je pense qu'il va nous falloir des mesures concrètes pour ça. Tijani, j'hésite, dit Alan, mais je dirais que ça n'importe pas. Tant qu'on sache qu'il y a des personnes, des vraies personnes au sein de cette ALS, c'est tout ce qui nous intéresse. Merci. Merci, Alan, dit Wolf Ulrich. Est-ce qu'on pourrait voir ma diapo sur les attentes opérationnelles pendant que je commence à parler? Les ALS, d'accord, devraient identifier en tant qu'ALS dans leurs activités liées à Internet et aux communications et sur leur site web. On pourrait avoir des organisations pour n'importe quel but. Mais ils devraient également dire qu'ils veulent appartenir et qu'ils veulent être des AS. Puis ils devraient distribuer des informations au sujet de l'ICANN dans leur région, dans leur ville, dans leur province, ce que vous voulez, mais ils doivent diffuser ces informations, sensibiliser. En même temps, ils devraient tenir au courant leur halo sur les événements importants liés à Internet dans leur région. Numéro 4, ils devraient participer aux activités multiparties liées à Internet dans leur région, comme représentant, bien sûr, de l'avis des utilisateurs finaux. Ils devraient également communiquer avec tous les acteurs, les parties prenantes, ce qui comprend les représentants de différentes régions. Ils devraient également offrir leur expérience et leur expertise à la base, avec les racines, en tant que contribution au processus d'élaboration de politiques ou d'avis de la LAC et des RALO. D'avoir des représentants qui participent au moins à la moitié des conférences de la RALO. Et puis, il devrait également, c'était une recommandation d'Atlas, ça d'ailleurs, voir qui ils sont exactement. Finalement, il devrait avoir également des représentants qui participent donc à la moitié des conférences de leur RALO. C'est un chiffre arbitraire, mais je pense que ce serait bon d'avoir un seuil plutôt que de dire tout simplement qu'ils devraient participer. Et finalement, ils devraient fournir annuel des activités de leur ALS à la RALO. Merci. Merci Uriel, c'était Uriel Ansiporo qui parlait. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Judith Elestine prend la parole. La question est que, en fait, à l'heure actuelle, on a une déconcentration des chapitres. Est-ce qu'on va réviser ces matrices d'information? Parce qu'en ce moment, on ne peut que le faire à travers une révision d'une fois pour voir quelles ALS ont participé aux réunions et lesquelles ont voté, qui n'a pas voté des dernières deux années, trois années. Par d'élections, ça pourrait être plus ou moins de temps. Donc trois élections, ça pourrait être un an ou deux ans, ça dépend. Mais est-ce que ces critères devraient exister, maximiser ce que vous proposez? J'ai aussi une autre question sur le rapport annuel. C'est que je pense qu'on ajoute toujours beaucoup de travail aux ALS. Et donc, si on leur demande en plus de faire des rapports, c'est un peu trop. C'est un peu trop pour eux. Et donc, l'énumération des activités, bon, ça va, mais le rapport, ça a l'air d'être un peu trop. Uriel, vous me permettez, dit Alan. Uriel Lancy pour reprendre la parole. Au moins, nos propositions, nos suggestions. J'ai envoyé cette liste par email. J'ai envoyé cette liste par mail à tous les membres de mon groupe. Oui, j'ai deux commentaires, en fait. Si le rapport une fois par an est trop de travail, dit Alan, c'est un gros problème, je pense. Hein. D'une part, ça, mais d'autre part, on s'attend à ce que presque tout change. En ce moment, les statuts constitutifs ne sont pas respectés. Hein. On manque à presque tous les statuts constitutifs qui portent sur les ALS. Et ce serait pas censé d'assumer que nos règles détaillées au sein de la LAC et au sein de chaque RALO ne devraient pas être modifiées. Donc oui, je dirais oui. Mais il faudrait également qu'il y ait une décentralisation aussi des votes. Aujourd'hui, on parle des votes et on s'en sert comme un critère. Et on a beaucoup de personnes qui votent. Et les personnes, en fait, veulent nous montrer qu'ils veulent participer parce qu'ils veulent voyager, en fait. Et donc, si on leur demande qui veut venir ailleurs, ils vont lever la main. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Merci. Maintenant, on a Fatima et Glenn et Julia. Et je ferme la liste. Si Alan, c'est Fatima. Je vais parler en espagnol encore.
Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Alan a déclaré. Un rapport annuel pas être un problème pour un ALS, parce que l'engagement minimum, véritablement. Bon, en ce qui concerne les élections, le vote, le non-vote à la CRALO, nous avons eu cela plusieurs fois. Ils ne votent pas pour se faire entendre, en fait. Ouais, ils sont contre un candidat. Donc, c'est un critère difficile, voter ou pas voter. sur des personnes qui ne votent pas, tout simplement. Donc ça, ça ne veut dire qu'un ALS ne participe pas. Donc je serais très heureux de faire cette analyse et j'espère que la plupart des ALS seront certifiés. Il me semble qu'il devrait quand même y avoir un nouveau processus de certification qui soit un peu plus amélioré, un petit peu plus au point. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur la qualité et non pas sur la quantité. Nous avons eu beaucoup d'ALS qui ne participent absolument pas. Merci. Oui, merci beaucoup, Fatima. Donc, un des plaisirs d'être président d'ALAC, c'est que j'essaye de contrôler un petit peu ce qui se passe pour les râleaux. Et c'est un petit peu décourageant lorsque nous avons vote, en effet, où on ne retrouve les personnes qui devraient voter. C'est parfois un peu problématique, en effet, Glenn. Donc, il y a des attentes. On a créé des attentes. Je crois qu'elles sont minimales. Ça ne me pose pas de problème. Mais qui, véritablement, va aller chercher ces râleaux? Le secrétariat, le personnel? C'est un point de détail, mais c'est important. Je crois que c'est très surprenant. Lorsque vous regardez les sites web des gens, ils ne mentionnent que très peu l'ICANN. Ils ne parlent pas de participation, mais c'est la réalité. On n'efforce pas de cette déclaration publique. Donc, il faut vraiment le rappeler. Donc, ma question sera la suivante. Qui va imposer ces nouvelles règles? Qui va les suivre? Qui va assurer le suivi? Qui est responsable de cela? À déterminer, répond Alan Klinberg. Et il y a un élément du personnel. En effet, le personnel sera engagé là-dedans. Donc, à Naralo, il y a eu, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui voulait être un membre individuel. Il disait qu'il n'était pas membre d'un ALS. Et en fait, ils étaient membres d'un grand ALS. Et l'ALS n'avait pas indiqué, enfin, sur son site web, qu'il ne pouvait pas être membre individuel. Donc, Julia, au micro. Je crois que, en ce qui concerne le rapport, pour rebondir sur ce qu'a dit Fatimata, je crois que c'est pas une obligation, mais je crois qu'il faudrait qu'il y ait un rapport annuel absolument qui soit effectué. Toute organisation de la société civile, toute ALS, doit faire un rapport annuel pour, par rapport au sort, par exemple. C'est le minimum, c'est une responsabilité à minima, véritablement. Et ce serait très utile pour d'autres membres de savoir ce que font les autres ALS pour qu'il y ait plus d'interaction entre les ALS, pour qu'il y ait plus de partage d'informations. Donc peut-être que ce n'est pas un terme de certification mais, ou d'élimination, mais il me semble qu'on doit absolument encourager les ALS à faire ces rapports annuels au minimum. Alan Klinberg, on n'a pas encore parlé beaucoup de certification, donc je crois que nous allons devoir parler de certification, de voir quand, par exemple, les rapports sont obtenus, quelle est la date d'obtention des rapports. Évidemment, on ne va pas limoger des gens parce qu'il y a un jour de retard, mais y réfléchir. Est-ce que j'ai raté quelqu'un? Non. Donc, je crois que je vais vous remercier. Nous allons bientôt lever la séance. Nous avons un autre groupe qui va venir dans cette salle avec les leaders régionaux et tout l'ALAC. On va retravailler ensemble. Tijani, vous avez quelque chose à dire? Vous avez un message Skype? Est-ce que vous allez pouvoir utiliser une prochaine 30 minutes, être à la tête de la séance, diriger la séance pendant 30 minutes? Merci. Je reviendrai.